École normale supérieure, savoir en multimédia.
Pourquoi je me suis intéressé au rugby? C'est un événement un peu particulier parce que je ne suis pas rugbyman du tout. Mais il se trouve que Mme Florence Weber, qui est, comme vous savez, anthropologue et sociologue, dirige la thèse d'un jeune normalien, Julien Clément, qui est là, sur le rugby des Samoans. Et qu'ils sont venus tous les deux me demander de coopérer dans cette affaire-là. Ce qui m'a conduit d'une ignorance totale concernant le rugby à essayer de m'y intéresser. Et depuis, je suis devenu donc un fan. Bon, donc j'étais en train de dire, pour faire patienter notre aimable auditoire, qu'une des raisons pour lesquelles j'ai commencé tardivement à m'intéresser au rugby, j'avoue, c'est que Florence Weber m'a fait le plaisir de me demander de travailler avec elle et avec Julien Clément sur la thèse que fait Julien, qui est là, qui se cache là, sur le rugby des Samoans. Avec ce défi tout à fait passionnant d'essayer de comprendre pourquoi les Samoans, ils gagnent. Ils ne vont pas en finale ni en demi-finale. Ils sont arrivés à quel niveau?
Ils n'ont pas été très bons cette année, malheureusement. Ils ont perdu en poule. Ils ont gagné un match contre les États-Unis et ils ont perdu contre le Tonga, l'Angleterre et l'Afrique du Sud.
Voilà.
Donc
ça fait un an et demi, presque deux ans, un an et demi qu'on travaille tous les trois pour autour de cette thèse que fait Julien. Et du coup, en plus le copain de ma fille qui est qui fait une thèse sur le fédéralisme américain en droit, rien à voir avec le rugby, est un grand rugbyman, ce qui fait que je suis j'ai été cerné de toutes parts par le rugby et je m'y suis intéressé. Alors, bon, merci de m'avoir invité. C'est la deuxième fois que je présente un peu ces idées ou ces quelques éléments de réflexion. La première fois, c'était parce que j'étais invité au musée du Quai Branly, il n'y a pas très longtemps, dans le cadre des journées sur le rugby. Et aujourd'hui, donc, pour cette journée sur le rugby à l'ENS, je regrette de ne pas avoir apporté mon t-shirt pour jouer là-haut, mais l'année prochaine, peut-être. Pourquoi un physiologiste s'intéresserait-il au rugby, en dehors de ses pressions familiales, académiques, etc. Pourquoi le rugby peut être intéressé par la physiologie et les neurosciences? Voilà un petit peu les réflexions que je vais vous livrer et je serai très content de discuter avec vous. Eh bien, d'abord, le rugby, la physiologie et les neurosciences ont en commun un intérêt pour les capacités les plus élevées du cerveau humain. Je crois que c'est pour ça que vous dites les sportifs pensent. C'est-à-dire qu'en réalité, ce sport dont on a dit, comme vous savez, que c'était un sport de barbares joué par des gentlemen, si j'ai bien de voyous, en réalité, c'est un sport qui, à mes yeux, met en jeu les compétences et les capacités les plus sophistiquées du cerveau humain, et c'est pour ça que ça intéresse le physiologiste que je suis. La perception, évidemment, l'action, les relations entre les deux, le rôle du regard, l'anticipation, la prédiction, le traitement de l'espace, la décision, les stratégies, la relation avec autrui, la coopération collective, c'est un pléonasme, mais sur lequel tous les gens qui appartiennent au monde du rugby insistent beaucoup. La relation entre raison et émotion, c'est une évidence extrêmement frappant, et la prise en compte des différences interculturelles, je crois que la Coupe du Monde de rugby en est un magnifique exemple, et le travail justement qui est fait par Julien, je crois, a aussi cette dimension-là. Donc c'est un modèle en quelque sorte, pour nous intéressant, et je voudrais vous rappeler que dans l'histoire de la physiologie mondiale, un des plus grands physiologistes du mouvement s'appelait Bernstein. Il était à Moscou autrefois et il a été professeur de physiologie du sport. Et c'est un homme qui a fait un livre qui s'appelle « The Coordination of Movement » qui en fait a servi de guide depuis une vingtaine d'années à toute la physiologie la plus moderne aux États-Unis. Lorsque la neurophysiologie du mouvement est sortie d'une période de réflexologie sherringtonienne, ce sont les idées de Bernstein et qui, sans être, souvent sans être cités d'ailleurs, qui ont été repris par nos collègues, en particulier américains, pour promouvoir une autre conception de l'étude du mouvement. Et Bernstein, à l'époque, d'ailleurs, était en conflit avec Pavlov et un certain nombre de ses théoriciens. Donc, la relation entre le sport et la physiologie du mouvement est très ancienne. Paillard, qui est un des grands psychophysiologistes français, malheureusement maintenant décédé, a toujours, à Marseille, travaillé avec les gens du sport. Et donc, il y a une espèce d'interaction intellectuelle, expérimentale, pas toujours aboutie. Moi, je travaille avec l'INSEP depuis des années et des années, mais ce sont quand même des mondes, surtout pour le sport de très haut niveau, qui sont des mondes pour lesquels la relation n'est pas facile. Mais il y a là vraiment une fertilisation croisée importante, exactement comme dans notre domaine, nous avons une fertilisation croisée avec la neurologie, avec la neuropsychologie, avec d'autres domaines. Et ceci aussi parce que les sportifs, leurs entraîneurs, ont sur le fonctionnement du cerveau une connaissance empirique, mais formulée dans des termes qui ne sont pas les termes de la science nécessairement, qui sont formulés, et qui contiennent potentiellement parfois de véritables révolutions théoriques sur la façon d'envisager le fonctionnement du cerveau, mais tout le jeu consiste à essayer de les faire aboutir. Alors, percevoir, quelques mots sur cette fonction-là, qui est donc évidemment fondamentale en rugby. D'abord, il est bien connu que quand je fais un exposé, on ne peut pas se passer de m'entendre parler du système vestibulaire, parce qu'on continue à avoir dans tous les livres, les écoles, les expositions, les musées, les émissions de télé, des émissions sur les cinq sens. Or, nous n'avons pas que cinq sens. Nous avons en plus des cinq sens traditionnels. La proprioception musculaire et articulaire qui permet au cerveau de connaître les mouvements des segments corporels les uns par rapport aux autres, et un capteur que je suis connu pour aimer beaucoup, qui sont les capteurs vestibulaires, une véritable centrale inertielle que nous avons dans l'oreille et qui signale à notre cerveau l'orientation de la tête dans l'espace et ses mouvements, ses accélérations, etc. Tout cet ensemble qui est avec en plus une partie de la vision qui n'est pas la vision corticale d'identification des objets, mais qui est la partie la plus ancienne, qui est la vision du mouvement, qui est celle qui permet de saisir la vitesse d'un ballon qui arrive, la vitesse d'autrui, etc. Et qui implique des structures sous-corticales comme le colliculus, etc. Tout cet ensemble-là, ce sont les kinesthèses. S'il y a des philosophes dans la salle, vous savez que moi je travaille actuellement avec Jean-Luc Petit sur la théorie des kinesthèses du cerle. Au fond, toute cette partie des sens qui sont la kinesthésie est encore sous-estimée. Or, c'est une partie fondamentale, en particulier pour le rugby, mais de façon générale pour tout ce qui est perception du mouvement, mais aussi construction de soi, ce qui est un autre sujet que celui du rugby. Mais indirectement, après tout, ces sports sont aussi des sports qui permettent de construire le soi. Alors, par exemple, la vision. La vision, c'est comprendre que tout ce qu'on nomme au singulier en général, reflète des réalités qui sont multiples, qui sont au pluriel. Par exemple, la vision, il y a trois voies visuelles. Il y a la voie qui identifie les objets, qui amène les informations sur un visage vers le lobe temporal. Il y a une voie qui va vers la partie pariétale du cerveau, qui est une voie qui localise les objets et les scènes dans l'espace. C'est où sont les objets par rapport à ces voies qui reconstruisent le quoi, l'identité d'un visage ou d'un objet. Et puis il y a une troisième voie, en général mal connue, impliquée dans le... Ça s'appelle le AK, c'est ça? Si je fais ça, j'active votre amygdale. C'est une structure sous-corticale qui reçoit des informations visuelles. Si vous voyez une vipère, si vous voyez un serpent dans la forêt que vous avez peur, en 75 millisecondes, cette structure dit « attention, la forme qui est là est dangereuse ». C'est sur cette structure-là que les All Blacks comptaient lorsqu'ils se sont rapprochés. D'ailleurs, c'est pas les Hollas qui sont rapprochés. C'est les Français sont venus confronter leur amygdale à celle des All Blacks, et ça a visiblement marché. C'était une façon de faire. Cette voix-là, elle est extrêmement importante parce que c'est la voix qui très rapide, qui détecte la valeur, le danger, et elle fait partie du cerveau limbique, le cerveau des émotions, et elle débouche sur une zone qui est ici le cortex orbitofrontal, qui est important parce que autant l'amygdale est une structure qui attribue de la valeur à un objet, un événement, etc., très rapidement, c'est one shot, hein, c'est un petit peu comme quand on mange des huîtres, on est malade. La fois d'après, on n'en a plus envie. C'est une structure qui identifie très rapidement la valeur positive ou négative d'un événement. Mais le cortex orbitofrontal ici, qui fait partie du même système, lui, il a pour fonction éventuellement non seulement de relier cette évaluation affective du monde visuel avec l'évaluation cognitive, mais aussi il a pour fonction d'inverser. C'est-à-dire que, par exemple, sur un terrain de rugby, celui qui aura porter un mauvais coup à son adversaire et qui aurait été identifié comme le gars dangereux et méchant, eh bien, le cortex orbitofrontal du joueur permettra éventuellement le coup d'après de dire, bah, écoute, quand même, attends, non, de contrôler en quelque sorte cette évaluation et d'inverser les valeurs. Ce qui est important parce que c'est la base du changement de point de vue, c'est la base de toute notre capacité éventuellement de changer la valeur que nous attribuons à autrui, à un événement, etc. Et on trouve cette structure activée dans des décisions aussi bien financières ou autres. Mais la perception n'est pas seulement cette multiplicité d'analyses du monde qui est impliquée dans le rugby comme ailleurs. Elle est pas passive. Le cerveau impose au monde ses interprétations. En effet, sur un terrain de rugby comme dans la réalité, le joueur ne reçoit pas les informations en permanence. En réalité, son cerveau passe son temps à projeter sur l'autre, sur l'espace, sur le rugby, sur des préinterprétations. Exemple, nombreux, c'est ce que j'appelle la tyrannie de la perception. Exemple, si je peux vous demander, est-ce que ces trois cylindres ont la même taille? Et vous répondrez tous, non, ils n'ont pas la même taille. Or, si je vais près de l'écran, je peux vous démontrer que la taille est, est exactement la même. Donc, ces trois cylindres ont exactement la même taille, simplement le contexte ici géométrique est tel que le cerveau impose une interprétation qui est une interprétation qui n'ont pas la même taille. C'est le cerveau projectif qui fait des hypothèses en fonction d'un certain nombre de règles d'interprétation. Le cerveau aime la symétrie, il aime la rigidité, etc. Donc, l'analyse par le cerveau n'est pas passive, elle est faite de pré-perception. Et vraisemblablement, dans l'entraînement, dans les processus d'entraînement des joueurs au rugby aussi, il y a à la fois cette lutte contre des a priori, des erreurs, parce que ça peut donner des illusions, et peut-être aussi une certaine capacité de former, de travailler sur ces propriétés projectives du cerveau. Il y a très peu de recherches faites là-dessus, mais ça serait amusant d'en faire. Le cerveau ne calcule pas non plus des distances. Quand il s'agit d'attraper une balle, le cerveau géomètre ne passe pas son temps à mesurer est-ce qu'elle est à 40 mètres, 30 mètres, 32 mètres. Vous savez, lorsqu'il tire un essai, là, après un essai, quand on tire, on voit la grande flèche, il y a marqué 42 mètres 23, maintenant à la télé. Le Whitkinson, il s'appelle, vous voyez, je deviens un. Pas mal. Vous voyez, en plus, je prends des exemples anglais pour montrer que. Voilà. Il n'est pas là avec un cerveau qui dit c'est à 42 mètres 23. Lorsque le ballon s'approche, le cerveau ne va pas nécessairement calculer la distance. C'est beaucoup trop compliqué. Il faudrait faire des calculs métriques. En réalité, David Lee, en Angleterre, a proposé il y a assez longtemps l'idée que le cerveau avait des astuces pour résoudre des problèmes comme ça et percevoir directement des variables pertinentes. L'hypothèse de David Lee, c'est que lorsqu'une balle se rapproche de vous, si je rapproche mes mains de vous, le cerveau peut éventuellement mesurer simplement la surface de l'objet qui se rapproche, la variation de surface, et en faisant une petite opération que les mathématiciens ici feront plus vite que moi, vous pouvez en déduire que de ce rapport entre la surface et l'expansion, on peut déduire tout de suite une variable pertinente par rapport à l'action qui est le temps jusqu'au contact. Autrement dit, le cerveau n'a pas besoin d'être un géomètre qui va calculer quand il y a une passe à faire la distance du ballon, le cerveau est éventuellement capable, s'il fonctionne bien comme ça, de calculer le temps jusqu'au contact. Et ce temps jusqu'au contact est une variable qui peut être aussi utile que de calculer des distances. Alors ça, c'est valable pour des mouvements uniformément continus. Il y a des variations de la théorie. Mais c'est simplement pour vous montrer à quel point il y a là des sujets intéressants. Il y a des équipes en France, à Marseille, à Rennes, un peu partout et dans le monde, qui travaillent sur cette question pour essayer de vérifier les théories sur les mécanismes grâce auxquels le cerveau peut donc mesurer non pas la distance, mais éventuellement le temps jusqu'au contact quand les mouvements sont aussi compliqués que ceux d'un ballon de rugby. Autre concept important qui nous font échapper à une conception trop géométrique primaire, en quelque sorte, du fonctionnement du cerveau, le concept d'affordance, qui est classique, que vous connaissez tous peut-être. Le cerveau, au fond, évalue aussi souvent des relations. Par exemple, pour monter cet escalier, pour le descendre, mon cerveau va pas calculer la relation qu'il y a entre, en centimètres, la hauteur de ma jambe, de mon pas, la hauteur des marches. Gibson a proposé l'idée, avec à sa suite toutes les théories de Turvey, etc., de physiologie écologique. C'est un drôle de terme, parce qu'en réalité, c'est un peu bizarre. À savoir que le cerveau évalue des relations entre l'action possible, qui est intuitivement connue par le corps, une espèce de métrique intuitive des mouvements du corps, et l'espace environnement. C'est ce concept d'affordance sur lequel j'ai pas trop le temps de m'attarder. Passer dans un intervalle entre deux joueurs pour marquer un essai, pour arriver à se faufiler entre deux joueurs, comme l'a fait par exemple, si je ne m'abuse, Michalak assez brillamment la dernière fois au match contre les All Blacks, c'est bien ça, il a réussi à filer, il n'y a visiblement pas le temps d'aller calculer des distances en mètres, en centimètres, dans un espace 3D avec la vitesse à laquelle tout se passe. Donc il y a là encore un grand mystère de la neurophysiologie et de la physiologie du cerveau. Nous ne savons pas encore quels sont exactement les mécanismes qui permettent au cerveau d'évaluer cette relation entre la dimension de mon corps, autrui, etc. Mais c'est un domaine extrêmement intéressant et il est absolument clair, d'après la rapidité avec laquelle ces choses se font, en particulier dans le rugby, qui n'a pas le temps de faire des neurocomputations très complexes, et que l'évolution, et c'est ça notre idée actuellement, a inventé, a découvert, a mis au point des grandes hypothèses simplificatrices pour simplifier la neurocomputation dans ces cas-là. Autre observation qui complique, et tout ça à la fois compliquant, mais en même temps, quand on y réfléchit, simplifiant peut-être le traitement des données, l'idée que il n'y a pas un seul espace. On peut imaginer que pendant que les collègues là jouent au rugby dans la cour là-haut, le problème c'est la relation entre le corps et l'espace au singulier. Encore une fois, vous allez voir que tout ce qui est toujours au singulier en fait reflète des mécanismes qui sont multiples. Il n'y a pas un espace au singulier, il y a un emboîtement d'espace, et les neuropsychologues l'avaient dit depuis très longtemps, ils avaient identifié des lésions cérébrales chez les patients qui impliquaient soit ce qu'ils avaient appelé l'espace corporel, soit l'espace proche de l'appréhension, soit l'espace extracorporel, celui-là, soit l'espace lointain. Donc il y avait dans la littérature de neuropsychologie des témoignages du fait que dans le fonctionnement du cerveau, se faisait par une ségrégation, en quelque sorte, d'espaces emboîtés les uns dans les autres. Et voici une très jolie manip d'imagerie cérébrale que j'adore, qui a été faite récemment par nos collègues allemands. Ils ont fait une manip très simple, hein. Ils ont pris un sujet dans l'IRM, ils lui ont fait pointer un écran à 70 cm, comme je fais ici, par exemple, ou sur mon ordinateur, voilà. Et ensuite, ils les ont fait pointer vers un écran qui était à 1,70 m, loin. C'est pas tellement loin. Mais c'est 1,70 m, c'est l'espace extracorporel, comme quand on passe d'une passe proche à la passe à quelqu'un qui est à 2 mètres. Eh bien, vous voyez que quand on regarde les aires du cerveau qui sont impliquées dans ces deux tâches de pointage, alors évidemment, c'est pas un modèle de rugby, c'est pas une passe, mais c'est de pointage près et loin, ce sont deux circuits différents du cerveau qui sont impliqués. Donc la gestion, il y a dans notre vie quotidienne, comme il y a vraisemblablement dans des sports comme le rugby, la nécessité de faire intervenir des systèmes cérébraux à la fois pour une part identique, mais aussi différents lorsqu'on passe d'un espace à l'autre. Et donc l'apprentissage de sports comme le rugby ou le foot ou d'autres implique d'être capable de jouer, de passer d'un espace à l'autre. Autrement dit, passer une balle, c'est pas seulement travailler avec un système et puis simplement calculer une métrique. C'est en même temps changer complètement des systèmes du cerveau qui sont impliqués. Et ça parce que chacun va utiliser, je vais le dire dans un moment, des référentiels différents, peut-être même des géométries différentes. Nous travaillons actuellement avec Daniel Benquin, qui est un géomètre, mais on a aussi avec Bernard Tessier et d'autres, sur l'idée que le cerveau n'utilise pas, j'aurai pas le temps d'en parler, n'utilise pas une géométrie euclidienne, mais peut-être des géométries affines et autres. Et à ces changements de système correspondent peut-être aussi des changements considérables des géométries ou des modes, en quelque sorte, de mise en relation du corps et de l'espace. Ça, c'est simplement pour vous donner un petit peu une idée de ce qu'il y a derrière. Percevoir, agir. Alors, le cerveau donc ne passe pas seulement son temps à prendre des informations sensorielles et à les traiter. Au cours de l'évolution, bien sûr, les petites bêtes ont un système, nous l'avons aussi, c'est un système de fonctionnement un peu en continu, sensorimoteur, même avec des inventions très très précoces au cours de l'évolution, qui sont appelées par exemple la décharge corollaire. La décharge corollaire, c'est quoi? C'est le fait que lorsque je fais un geste, une action comme celle-ci, par exemple, eh bien, en même temps que mon cerveau produit la commande motrice, il y a des copies, efference copies, on dit les pionniers, Van Hals, Mettenstein, des copies de l'ordre moteur qui sont adressées au centre sensoriel, perceptif, etc., et qui font des réactualisations en anticipation. En effet, une grande partie du fonctionnement cérébral est basée sur une multitude absolument extraordinaire de mécanismes anticipateurs. Alors, très très tôt au cours de l'évolution, ce type de mécanisme anticipateur, c'est-à-dire d'envoi d'une copie efférente de l'ordre moteur à des centres qui permet en anticipation, en quelque sorte, de réactualiser la perception, etc., a été inventé, même chez des organismes assez élémentaires, des insectes, etc. Mais au cours de l'évolution, ce qui s'est produit et qui est extrêmement intéressant et sur lequel on travaille tous, c'est l'apparition, le développement, l'évolution d'un deuxième grand mode de fonctionnement qui est un mode qui ne fonctionne pas du tout en relation avec les capteurs sensoriels, qui est un mode de simulation mentale et même d'émulation du monde par le cerveau qui permet au cerveau de simuler l'action sans l'exécuter. Le plus bel exemple est le rêve. Nous rêvons tous. Pendant le rêve, on est complètement coupé du monde sensoriel. Vous pouvez essayer. Il faut vraiment chatouiller très fort pour arriver à passer cette barrière quelquefois. Et pourtant, nous voyageons, nous portons des valises, il nous arrive plein de choses. Moi, je rêve. Ma vie onirique est complètement réelle. C'est absolument extraordinaire. Le cerveau n'a pas besoin du monde pour simuler complètement l'action. Le cerveau est une machine éventuellement qui peut être complètement close, sans rapport avec le monde extérieur, et ceci parce que, au cours de l'évolution, par des mécanismes génétiques, mais aussi beaucoup de l'enfance, et c'est pour ça aussi peut-être que le sport est si important d'ailleurs au cours de l'enfance, pour développer ses capacités quand il s'agit d'utiliser ces mécanismes, je vais vous le dire dans un instant, ont été développés d'une part de ce qu'on appelle des cartes, mentales qui représentent le monde visuel, etc., mais aussi ce que nous appelons des modèles internes de la mécanique, je vais en parler dans un instant. Et il y a donc ce deuxième mode ici qui est intéressant parce que c'est le mode qui permet de choisir, de décider, de simuler l'action avant de la faire. Quand on est au rugby et qu'on doit faire une passe, non seulement il faut aller très vite, mais il faut faire tourner, les joueurs font tourner en permanence, vraisemblablement, ces modes de simulation qui leur permettent d'envisager deux, trois solutions pour finalement choisir la bonne. Et ça, c'est une capacité sur laquelle il y a beaucoup de recherches actuellement. Alors, exemple évidemment trivial que vous connaissez tous maintenant sur le cerveau simulateur, mais on ne peut pas ne pas en parler, c'est l'existence des neurones miroirs. En effet, Rizzolatti a découvert chez le singe il y a quelques années des neurones dans le cortex préfrontal C'est-à-dire dans le cortex prémoteur, par contre, c'est-à-dire des neurones qui étaient censés préparer le mouvement, des neurones qui s'activent aussi lorsque l'animal voit autrui faire le même mouvement. La manip classique, c'était le singe mangeait un cacahuète, donc chaque fois qu'il mangeait le cacahuète, qu'il prenait le cacahuète, on entendait rop, 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 et puis un jour l'expérimentateur a eu faim, il a mangé un des cacahuètes du singe, il a fait comme ça et il a entendu le neurone du singe faire rop, rop, rop. Surprise, découverte. Le neurone ne codait pas le mouvement, ça n'était pas un neurone prémoteur, c'était un neurone qui codait l'action. Que l'action soit faite par le singe ou qu'elle soit faite par autrui. Donc actuellement, philosophes, psychanalystes, psychiatres, physiologistes se passionnent pour ce système. On lui attribue absolument tout, y compris l'empathie. Ça déborde un peu trop, mais c'est un exemple du fait que lorsque nous voyons autrui faire un geste, nous le simulons mentalement, et ça c'est important parce que ça se joue aussi bien sur le terrain de rugby entre les joueurs, mais ça se joue entre vous et les spectateurs, y compris à la télé, et il y a cette résonance en quelque sorte entre l'action faite par autrui et l'action que l'on simule, qui est un des grands sujets aujourd'hui de ce domaine-là. Et Julie Grèce, par exemple, qui est dans notre laboratoire, mais qui va revenir rejoindre l'école normale maintenant, à partir de janvier, dans le groupe d'Étienne Coquelin. Julie Grèce a fait de très très beaux travaux, qui a été une des premières avec Jean de Setti à faire des travaux chez l'homme, sur ce système miroir, qui est un système qui implique plusieurs zones du cerveau, a fait cette très jolie manip, qui aussi est intéressante quand on s'intéresse au rugby. Elle a montré à des danseurs classiques une danse classique et une danse ça s'appelle la capoeira. Capoeira. Et elle a montré à des danseurs de capoeira, des danseurs classiques et de capoeira, et elle a montré que lorsqu'on montre à un danseur classique une danse classique, il active son système miroir plus et plus vite, etc., que quand on lui montre la capoeira réciproquement. Autrement dit, quand nous observons un mouvement familier, nous avons une activation de ce système qui est plus forte, plus active, plus riche, etc., que non familier. Autrement dit, ça explique aussi pourquoi, quand je suis à la télé en ce moment avec avec le compagnon, il faut faire très attention aujourd'hui, comme on dit ça, le compagnon de ma fille, c'est pas mon gendre, c'est pas mon compagnon de ma fille, pourquoi lui, immédiatement, voit tout, perçoit tout, parce qu'il est un ancien rugbyman, c'est absolument fabuleux. Je veux dire, suite, il y a, ben oui, voilà, comme les arbitres, qui en 100 millisecondes voit la faute finalement. Moi, je suis fasciné la rapidité avec laquelle ce jeune homme voit tout, même à la télé, et moi je vois rien, d'abord parce que je suis ignorant, mais en même temps parce que ça ne m'est pas familier. Et familier, ça veut dire que lui a visiblement une simulation mentale de l'ensemble des gestes, de tous ses circuits, comme s'il faisait lui-même le mouvement. Donc c'est intéressant aussi pour l'apprentissage. Qu'est-ce que c'est que l'apprentissage, la familiarité? Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ce genre de choses a, à mon avis, un impact aussi pour des actions beaucoup plus cognitives, beaucoup plus intellectuelles, dans des opérations même qui impliquent les maths, la logique, etc. Donc, ce que je crois qu'il faut faire, parce que je pense que beaucoup de nos facultés cognitives sont basées sur l'apprentissage des mouvements, je pense qu'on peut aussi essayer de transposer aussi à d'autres fonctions beaucoup plus cognitives que celles simplement de jouer au rugby. Alors, anticiper, prédire. Le cerveau prédit. Et j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait une multiplicité de mécanismes de prédiction, d'anticipation. En voilà un très joli qui est impliqué dans le rugby aussi, et qui est très important. Ce sont les neurones bimodaux de Graziano et Gross. Dans certaines parties du cortex qui est impliqué dans la détection de la perception tactile, c'est par exemple des neurones qui sont activés par la caresse, quand on touche la main ou la joue, on trouve des neurones qui sont aussi activés par la vision, mais pas n'importe quelle vision. Par exemple, un neurone qui va être activé lorsqu'on va toucher la joue du singe, donc il va faire qui a un champ récepteur tactile correspondant à la joue du singe, hein, c'est son petit univers à lui, c'est la joue du singe. Quand on touche la joue du singe, ben il est content, il dit voilà, joue du singe touchée. Eh bien, il suffit d'approcher le doigt vers la joue du singe pour que le même neurone se mette à s'activer, pas si on approche de la jambe ou du bras. C'est-à-dire que ça, c'est la caresse. Je ne sais pas si vous avez tous fait l'expérience, mais on sent la caresse avant même que la main touche. Et ceci parce que lorsque la main s'approche, les mêmes neurones, c'est pour ça qu'il faut caresser doucement, il ne faut pas se presser, parce que dans cette attente, en quelque sorte, dans ces instants, il y a peut-être... Alors au rugby, ça va plus vite, mais... Non, mais on peut parler du rugby et de l'anti... Donc il y a cette anticipation qui est extrêmement importante parce qu'elle permet elle aussi, si vous voulez, de prédire le choc, d'une certaine façon.
C'est quand même par l'intermédiaire de la vision.
Oui, c'est la vision. Ben, il faut un capteur, mais c'est une conjonction des deux. Ah ben sans capteur, on peut rien. Mais simplement, le cerveau va être informé du contact avant même ce contact dans cet endroit précis.
Bon.
Voilà. Alors, autre exemple d'anticipation, j'ai parlé tout à l'heure du fait que, au cours de l'évolution, s'étaient construits des modèles internes. C'est des concepts qui sont classiques en robotique, pardonnez-moi d'être si trivial aussi, mais voilà un très bel exemple qui est important aussi dans le rugby de cette existence dans le cerveau des modèles internes. C'est ce qui se produit lorsqu'on attrape une balle. Alors, d'habitude, j'ai une grosse bouteille pleine d'eau, mais là, il n'y a pas, c'est pas grave. Mais si vous me donnez, vous pouvez me lancer une bouteille, on va.
Bravo.
Voilà. Si je laisse tomber la bouteille dans la main, vous voyez que ma main ne bouge pas. Si cette bouteille pesait 4 kilos, ça serait la même chose. Vous voyez que ma main ne bouge pas. Un enfant d'un an, la main fait ça. À partir d'un an, la main fait ça. Ça veut dire que 150 millisecondes ou 100 millisecondes avant que la bouteille ne touche la main, ou le ballon, disons, ne touche la main, le cerveau a produit... Vous voyez, je peux même aller assez fort. Ma main n'a pas bougé. Ça veut dire que 100 à 150 millisecondes avant le contact, mon cerveau a produit dans mon biceps, ici, une activité que vous voyez représentée ici, en anticipation du contact de la balle, qui est exactement celle qui est nécessaire pour contrebalancer la force. Autrement dit, le cerveau a un mécanisme qui lui permet... de deviner par anticipation la force. Et ce mécanisme est en partie dû à des capacités de détection de la trajectoire qui sont mises en œuvre par exemple par les roboticiens qui jouent à capturer des balles comme Jean-Jacques Slotin et autres, d'anticipation de la trajectoire, de décision d'un endroit du contact, etc. Mais surtout, ça nous a conduit à proposer cette idée... qui est le titre d'un papier qu'on a fait dans Nature Neuroscience il y a quelques années, qu'ils ont dû prendre d'ailleurs uniquement parce qu'il était arrogant. Le cerveau a-t-il des modèles internes d'Edward Newton? L'idée est que, au cours de l'enfance, vraisemblablement, par le jeu, le cerveau acquiert la capacité de simuler en interne l'effet de la gravité et de l'accélération. Et nous sommes allés dans la station, dans le Space Lab, il y a quelques années, on a mis un lanceur de balles. Et évidemment, dans l'espace, la balle qui tombe n'a pas un mouvement accéléré, c'est un mouvement à vitesse constante. Et nous avons vérifié que même lorsque le mouvement de la balle est à vitesse constante, le cerveau produit cette anticipation, c'est-à-dire que cette anticipation n'est pas guidée par la vision, parce que comme le mouvement est à vitesse constante, il n'y aurait pas besoin, mais il est bien guidé par une anticipation. Et ce qu'on a essayé de faire, c'est de regarder ce qui se passe au bout de 15 jours. Malheureusement, les vols étaient un peu courts. On espère le faire dans des vols de plus longue durée pour voir, avec l'idée qu'éventuellement, le cerveau va être capable de s'adapter peut-être à d'autres types de schémas à long terme. Voilà un petit peu l'idée que le cerveau a donc des mécanismes internes de simulation. Alors ça peut s'étudier, ça, par le MEG, par les mécanismes. Et l'idée, c'est qu'en fait, dans le cerveau, il y a une multitude de mécanismes une multitude de modèles internes comme ça, qui sont des modèles bayésiens, probabilistes, etc. Alors, avant-dernier problème important pour le rugby ou la décision. Il est important, effectivement, de décider où on va jouer, à qui on va passer, etc. Et là aussi... on a maintenant des données un peu plus récentes, intéressantes, sur les mécanismes de la décision, en quelque sorte, dans le cerveau. avec l'idée que, encore une fois, la décision, c'est une multitude, une hiérarchie de mécanismes qui sont apparus au cours de l'évolution. Et je vais vous montrer un tout petit exemple qui est la décision de regarder. En effet, dans le rugby, comme dans tous les sports, on sait que regarder, c'est très important. Et vous savez qu'une partie des feintes, d'ailleurs, comme on l'a vu dans un match récent, j'ai saisi ça, consiste à regarder pas du tout là où on va aller lancer la balle. Et les sportifs ont compris depuis très longtemps le rôle fondamental du regard, à la fois dans le guidage de l'action, mais aussi dans l'interprétation de l'action d'autrui. Alors d'abord, le regard, c'est important parce que chaque fois qu'on va prendre un objet, par exemple, si je veux attraper cette bouteille, eh bien, on a montré par des très, très jolies manips qui ont été faites récemment par Johansson, par exemple, en Suède, qu'avant que la main touche l'objet, le regard se porte vers l'objet. Autrement dit, si je vais attraper cette bouteille, ce qu'on enregistre toujours, c'est ça, une saccade oculaire vers l'objet et ensuite la main. Et ça, c'est pas simplement pour regarder. L'interprétation là, c'est qu'en réalité, le regard, c'est pas simplement pour voir, le regard établit un référentiel. Et qu'en réalité, le guidage du mouvement de la main pour attraper est fait autour d'un référentiel mobile qui est créé entre l'objet et le corps par le regard. Ce qui permet, par exemple, de s'affranchir, d'avoir à reconstruire la position de l'objet par rapport à la pièce, etc. Encore une fois, le but, c'est d'affranchir le cerveau de la nécessité de calculer tous ces espaces emboîtés. En fixant le regard sur l'objet, c'est un peu la théorie sur laquelle on travaille, on crée ce que les roboticiens ont appelé un « object referred reference frame », et ensuite, le mouvement va être organisé de façon relative dans cet espace-là. Alors, c'est un peu trivial en robotique et de façon générale, mais ça montre que le regard, c'est pas simplement fait pour, disons, organiser la vision. Alors, il y a un petit exemple qui est la saccade oculaire. En fonction des... Là, c'est pas un terrain de rugby, mais c'est quand vous regardez une diapo comme celle-là, vous organisez votre regard suivant un chemin qui est fait des différents sauts que fait votre regard vers ces images, ce qu'on appelle des saccades oculaires, parce que c'est ce que vous faites, même si vous ne le réalisez pas. Vous ne faites jamais des mouvements continus, vous faites toujours des sauts, qu'on appelle des saccades. Et ces sauts qui sont les saccades sont organisés en fonction de facteurs automatiques, cognitifs, etc., très nombreux. Et ce qu'on a montré maintenant par des très jolies manips d'imagerie cérébrale, c'est que lorsque on prend des décisions de regarder, bien, on active toute cette zone que vous voyez ici du cortex préfrontal, du cortex frontal. Lorsqu'on se contente de regarder à gauche, à droite, on active des zones motrices. Lorsqu'on va préparer une décision, par exemple, regarder à gauche ou à droite, lorsqu'on est dans cette espèce de phase dans laquelle on va décider où on regarde, eh bien, on voit activer une zone ici dont je vais reparler dans un instant, qui est le cortex frontopolaire, qui est une zone importante dans les choix, les décisions, les branchements logiques, étudiés par Étienne Coquelin aussi ici, d'ailleurs, pour des branchements logiques. Et puis, dans les processus de décision, vous voyez, on va apparaître toute cette partie préfrontale du cerveau. Et c'est pas étonnant parce que c'est dans cette partie préfrontale que sont mélangées à la fois les informations sur l'identité des objets, les informations sur leur place dans l'espace et les informations données par le cortex limbique, etc. Et voilà le schéma d'Étienne Coquelin qui dirige donc ici au DEC une équipe, qui est un très beau papier qu'il a fait dans Science avec d'ailleurs un très beau modèle, sur une organisation de ces processus de décision. Alors tout ça est en évolution. BA, ce sont des aires du cerveau. Alors, ici, il y a le circuit banal, stimulus-action, perception-action. Ici, il est proposé dans ce modèle que le contexte externe est pris en compte dans une aire du cerveau, qui est l'aire BA44. La mémoire du passé, c'est-à-dire que la mémoire de ce qu'on a fait, de ce qui a marché, de ce qui n'a pas marché, est prise en compte par une intervention de cette aire BA46 qui est ici, qui s'appelle le cortex dorsolatéral préfrontal. Et puis, dans cette aire BA10 qui est ici, que je vous ai montré là pendant la préparation, il y a toute cette activité de branchement, de décision, de choix. Et on retrouve cette... Alors, dans les expériences d'Étienne Coquelin, je précise, il ne s'agit pas de rugby. Il s'agit de tâches très cognitives, avec des mots, des lettres, des choses très cognitives. Mais vous voyez qu'on peut arriver aujourd'hui à proposer en tout cas une théorie hiérarchique de ce genre de choses. Alors, autre chose, agir c'est inhibé. Et il ne faut pas oublier, ce qu'on oublie très souvent, que le cerveau, c'est une machine qui était essentiellement une machine qui inhibe. En effet, les trois ou quatre grandes structures du cerveau qui sont impliquées dans la décision, la coordination des mouvements, la sélection de l'action, sont toutes des structures dont la sortie est inhibitrice. Ce sont des neurones qui passent leur temps à dire non, 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 oui, non, 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 oui. C'est-à-dire l'action est déterminée par la désinhibition. Ça, c'est une chose qui est très, très mal comprise, connue, identifiée, même dans les modèles. Les mathématiciens continuent, ou nos amis roboticiens, souvent à faire des modèles dans lesquels il y a beaucoup d'activation, de sélection, mais très peu d'inhibition. Et pourquoi l'inhibition est fondamentale et intéressante ? Parce qu'elle permet de désapprendre des automatismes innés, feindre c'est inhibé. Elle permet aussi de choisir et elle permet d'apprendre. Chaque fois qu'on met un neurone inhibiteur dans un circuit, chaque fois qu'on double une cascade excitatrice par une cascade de neurones inhibiteurs, on peut à différents endroits du système introduire la modulation d'amplitude, la sélection, etc. Donc l'inhibition est vraisemblablement une extraordinaire invention de l'évolution et je suis prêt à parier que, mais ça je ne sais pas, qu'une bonne partie de l'entraînement au rugby consiste aussi à apprendre aux gens à inhiber, à sélectionner et pas forcément à faire. Et puis, il y a l'échange du regard avec autrui et tout ce domaine qui est si important dans le rugby et qui est en train d'exploser aujourd'hui en sciences cognitives, qui est l'action partagée. Alors là, vraiment, il faudrait en parler beaucoup. C'est vraiment passionnant. Juste un tout petit mot là-dessus sur le regard, justement à cause du haka et de tout ce jeu très curieux qu'on voit aussi dans le rugby sur le jeu avec le regard. Et là, je vais réintroduire pendant un instant l'amygdale. En effet, si je vous montre un visage comme celui-là, vous imaginez un moment que c'est un adversaire, au rugby, puisque c'est la journée du rugby, eh bien, vous allez activer, pour identifier ce visage, une zone du cerveau qui s'appelle le noyau fusiforme, ici, qui est spécialisé dans cette identification, en particulier des visages aussi d'autres choses. Hein. Il y a une partie de cette structure qui est impliquée dans les mots, la lecture, etc., mais les visages. Mais si tout d'un coup, cette personne vous regarde de face, comme si tout d'un coup j'échange un regard avec l'un d'entre vous, on voit activer une autre structure qui est précisément l'amygdale. Autrement dit, le contact par le regard active l'amygdale, cette structure dont je vous ai dit tout à l'heure qu'elle était si importante pour attribuer une valeur affective de danger ou de plaisir éventuellement à autrui. Autrement dit, vous savez que dans certaines populations, on m'a dit d'Amérique du Sud, si une jeune fille regarde un jeune homme, c'est qu'elle accepte de l'épouser. Donc il y a une espèce de connaissance empirique de l'importance de cet acte, en quelque sorte, qui consiste à introduire d'une façon ou d'une autre l'autre dans son monde affectif qui est produit par le contact, par le regard. Donc il doit y avoir aussi dans le rugby tout un jeu des regards ou d'évitement du regard, et vous savez que dans l'autisme, enfin, éviter le regard d'autrui, c'est une chose extrêmement importante. Et il y a dans le... Moi je regarde les matchs maintenant, il y a tout un jeu comme ça dans lequel on évite le regard d'autrui, ou au contraire on le provoque, qui est sans doute un très joli sujet de discussion, parce que, encore une fois, regarder autrui, c'est mettre en jeu tout d'un coup tout le système limbique. C'est-à-dire qu'à partir de l'amygdale, cortex orbito frontal, c'est-à-dire qu'on va tout d'un coup ne pas simplement identifier autrui. Si je regarde votre front, par exemple, je ne mets pas en jeu mon système limbique, mais si tout d'un coup j'échange le regard avec vous, en plus de cette identification cognitive de l'identité, etc., eh bien, on met en jeu tout à fait autre chose. Et là aussi, il faut éventuellement être capable, sans doute dans un sport comme ça, de ne pas être entraîné par le regard d'autrui, ou bien au contraire de le provoquer. Je ne sais pas si Julien regarde ça chez les Samoans. Mais... Dernier... Ça va, là ? Vous avez faim ? Il y en a déjà qui sont partis manger ou jouer, mais... Jouer, ça va ? Jouer, oui, mais ils ont raison de jouer. Bah, bien sûr, ils ont raison. Hein, jouer.
Il y avait deux blessés, puis il y en a qui sont partis se
Oui, non, mais c'est bien, c'est bien. Ça vit.
Non, mais ils vont profiter de la leçon. Ouais.
Ils vont mettre ça en... Oui, en action, en pratique. Ouais. Alors, se déplacer sur le terrain, la locomotion à la course. Même chose, le rugby, c'est la locomotion, c'est courir. Et la locomotion humaine, c'est un système absolument extraordinaire, complexe, des plus automatiques, les générateurs de rythme, jusqu'aux plus cognitives, la génération trajectoire locomotrice. Et ce qui est extrêmement intéressant pour moi dans l'apprentissage que je fais du rugby, là, c'est qu'il y a, il y a tout ça. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a l'ailier, c'est ça, qui lui est capable de courir très vite et d'activer ses générateurs à un moment donné, de façon cruciale, mais il y a toute cette art de la génération de la trajectoire locomotrice dans l'espace du terrain. Dans l'espace du terrain. Et nous faisons, bien sûr, nous, au laboratoire, beaucoup d'études sur cet aspect du contrôle top-down, en quelque sorte, des trajectoires locomotrices avec des structures comme l'hippocampe, etc. Et dans un sport comme le rugby, c'est intéressant de voir que c'est cet ensemble de mécanismes de traitement de la locomotion et de la course sont mis en jeu. Et il y a des coopérations possibles avec les sportifs sur ces sujets-là. Alors, tout ça est extraordinairement compliqué. Je voudrais vous dire deux, trois mots quand même sur une des raisons pour lesquelles on s'intéresse à ces choses-là. C'est comme je l'ai dit tout à l'heure, pour arriver à résoudre aussi vite des problèmes aussi complexes avec des systèmes à des centaines de degrés de liberté, dans l'espace 3D et tout, mon hypothèse de base, que je partage bien sûr avec toute une communauté, est qu'au cours de l'évolution, ont été trouvés des principes de simplification qui permettent d'éviter, comme je l'ai déjà mentionné une ou deux fois, de faire de calcul. Une bonne partie de l'intelligence artificielle, la robotique, etc., a essayé de trouver des algorithmes qui permettaient de faire des calculs compliqués. En réalité, l'évolution a marché, à mon avis, à l'envers. Elle a essayé de trouver un moyen de ne pas faire de calculs, ou au moins de simplifier, de façon à simplifier, à rendre rapides les calculs. Alors, par exemple, par la création de référentiels mobiles, je vais en dire un mot tout à l'heure, et non, on travaille là-dessus avec Flash et Benkin, et je vous dirai quelques mots du système vestibulaire, l'anticipation de la trajectoire, les modèles internes, j'en ai parlé, et puis ces fameuses lois du mouvement naturel dont on fait la liste actuellement, la loi du point d'équilibre de Feldman qui dit que le cerveau ne passe pas son temps à aller contrôler la contraction de tous les muscles, mais se contente de contrôler des variables très simples qui sont des variables d'équilibre entre les contractions de muscles antagonistes. Les principes du contrôle du point final qui disent que le cerveau se fiche complètement de contrôler indépendamment toutes les articulations, mais ce qui est contrôlé en fait c'est endpoint, c'est le bout de mon doigt si je vais atteindre ici, et que le contrôle, la coordination segmentaire est faite au niveau de la moelle par exemple. La loi de covariation des bras et des jambes, c'est une loi qui a été découverte à l'origine pour le bras et qui dit que quand je fais un dessin comme ceci, il y a entre les angles d'élévation du bras et de l'avant-bras, par rapport à la verticale aussi, une covariation planaire. C'est-à-dire, si on prend ces angles et qu'on les plotte sur un graphe, on s'aperçoit qu'ils covarient. Ce qui permet au cerveau de ne pas aller, encore une fois, contrôler chacun des muscles, mais de contrôler un paramètre ou deux. Et ça a été montré aussi pour la jambe, avec les trois angles du pied, de la jambe et de la cuisse, comme ceci, dont les angles d'élévation covarient. Donc des lois simplificatrices qui mettent en avant d'ailleurs la géométrie, la cinématique. La loi de la puissance un tiers qui dit que quand je fais un dessin comme ceci, d'une ellipse par exemple, eh bien il y a une relation entre la vitesse tangentielle sur la trajectoire et la courbure, qui est une loi maintenant extrêmement connue, empirique. On n'en connaît pas bien le mécanisme, on se bagarre beaucoup pour savoir si c'est simplement une loi de minimum de Scouse ou si c'est une loi dérivée de principes plus généraux. Justement, c'est là-dessus qu'on travaille avec Benkin sur la géométrie dans laquelle travaille le cerveau. Des lois de minimum de variance. Les variables composites, ça c'est avec Jean-Jacques Slotin qu'on a fait ça. Nous, les neurophysiologistes, quand on étudiait le mouvement, on passe son temps à trouver des neurones qui codent des combinaisons vitesse, position, accélération. Alors ça paraît très très compliqué parce que on se dit que quand on veut attraper une balle, on doit contrôler une position. Alors Slotin avait proposé dans des modèles qu'en passant, que beaucoup d'entre vous connaissent ou comprennent mieux que moi, qu'en fait, en utilisant une variable composite, c'est-à-dire une composition accélération, vitesse, position, des problèmes non linéaires très compliqués deviennent linéaires. Et on a donc fait l'hypothèse qu'éventuellement, Certaines parties du cerveau pouvaient utiliser ça, etc., etc. Et la ségrégation de variables. Autrement dit, l'idée, l'axe, le programme de recherche un peu dans ce domaine, mais sur lequel on se retrouve un peu avec les gens, pas avec les gens du rugby, mais sans lequel je pense qu'on ne pourrait pas jouer aussi rapidement et de façon aussi complexe à ces jeux, c'est qu'il y a là toute une série de lois de simplification. Et le problème, le grand défi intellectuel à terme, va être de comprendre si, parce qu'on découpe en petits morceaux, de comprendre si à la base de tout ça, il y a quelques principes généraux, en quelque sorte, qui ont été utilisés pour permettre aux animaux et à l'homme d'avoir ces performances extraordinaires, à un écureuil de sauter d'arbre en arbre sans avoir aucune référence, de sauter d'arbre en arbre, de sauter de branche en branche avec une telle agilité. Alors tout ça est fait par des manips sur l'homme, et je mentionne juste cette petite chose que vous pourrez aussi observer au rugby, d'ailleurs, c'est que quand on court pas avec la tête qui se balade comme ça. Un enfant, quand il est petit, se promène comme ça, il est ancré sur le sol. Chez nous, chez l'adulte, la locomotion, la course, tout le surf, le ski sur bosse, etc., obéissent à un principe complètement différent, une révolution galiléenne, en quelque sorte, qui se produit dans les trois premières années de la vie, à savoir que la locomotion, la course, n'est pas organisée des pieds à la tête, elle est organisée à partir d'une centrale inertielle stabilisée en rotation, qui est la tête, et la coordination de la multiplicité des degrés de liberté pendant la course est en réalité organisée à partir de la tête, qui est stabilisée en rotation. Regardez un surfeur, regardez un skieur sur bosse, regardez un rugbyman qui court, vous verrez que sa tête est parfaitement stabilisée en rotation, de façon évidemment intermittente, pas en permanence, mais par segment, par moment. Et ça, c'est parce que grâce au système vestibulaire, qui est cette centrale inertielle qui permet d'orienter la tête par rapport à la gravité, on peut créer cette plateforme stabilisée, un peu comme font les gens dans l'espace, qui, quand ils veulent contrôler un grand système, créent une petite plateforme sur laquelle ils mettent une centrale inertielle, ils ancrent la centrale sur une étoile, par exemple, ce que nous faisons avec le regard, et ensuite la coordination est faite à partir de cette centrale. Autrement dit, au rugby, comme ailleurs, la coordination incroyable des mouvements qui est faite par ces gens est faite vraisemblablement grâce à ce principe qui est utilisé, qui a été découvert par l'évolution, pensons-nous, et qui est aussi un des systèmes sur lesquels nous travaillons avec les mathématiciens pour voir dans quelle mesure on peut modéliser ça avec des théories sur les référentiels mobiles, etc. Alors je passe et je termine par une chose aussi qui, moi, m'amuse beaucoup quand on... m'intéresse beaucoup au rugby, c'est en dehors du jeu de soi avec la balle, du jeu à deux, de tout ce dont je viens de parler, cette chose absolument passionnante qui est le déploiement du jeu sur le stade. Le déploiement du jeu sur le stade qui tient compte aussi d'ailleurs de l'espace, visiblement de l'ensemble de l'espace au-delà du terrain, dans ce jeu est tout à fait magnifique parce que il fait intervenir la perception de l'espace lointain et l'organisation spatiale du jeu individuel dans des espaces lointains. Et ça, ça s'appelle chez nous le problème des référentiels égocentrés, allocentrés. En effet, pour arriver à créer son mouvement, pardonnez-moi, j'ai l'air de parler d'autorité pour le rugby, mais c'est mon... Pour arriver à créer son cheminement, moi, ce qui me fascine, c'est qu'il faut que le joueur de rugby à la fois gère son corps, la relation avec autrui, c'est-à-dire travaille dans un référentiel égocentré, je suis là, comment es-tu par rapport à moi, etc. Mais en même temps, il faut qu'il ait en permanence une perception allocentrée, qu'il survole le terrain, en quelque sorte, pour prendre une image, comme un oiseau, et qu'il ait une vision d'ensemble du déploiement du jeu, même s'il ne voit rien. Le demi de mêlée, là, en sortie, on le voit, il est comme ça, il regarde, ça, mais c'est clair que dans sa tête, pour être simple, il a une simulation mentale, vous savez que j'aime pas le mot représentation, une simulation mentale de l'ensemble du terrain. Et ça, c'est l'objet de recherches qui sont faites par nous, mais aussi par beaucoup d'autres labos en ce moment, sur le fait que ces deux modes d'appréhension de l'espace égocentré, qui est celui, par exemple, qui vous permet de vous rappeler le mouvement que vous avez fait pour aller d'entrer de l'école normale jusqu'ici. J'ai bougé les kinesthèses, j'ai rencontré quelqu'un, etc. À une perception allocentrée qui est celle de la carte quand on prépare un voyage ou quelque chose comme ça. Ces deux appréhensions de l'espace implique dans le cerveau des systèmes en partie communs, mais aussi très différents. Donc on fait des expériences en imagerie cérébrale qui montrent que ces deux systèmes, le système égocentré implique des structures comme pariéto-frontales, qui sont aussi d'ailleurs des structures impliquées dans des grandes maladies neurologiques comme la négligence, et la perception allocentrée, des structures comme l'hippocampe, etc. Et là aussi, là il y a des garçons et des filles qui jouent là-haut, mais il faut savoir qu'il y a des différences importantes interindividuelles et intra-individuelles dans la gestion de l'espace. Nous, les garçons et les filles, on peut soit utiliser un mode, soit l'autre. Certains d'entre nous sont plus géomètres que d'autres, mais il y a une grande différence entre les sexes, sur lequel c'était un sujet non politiquement correct il y a encore jusqu'à quelques années, on n'osait pas le dire. Mais c'est absolument clair maintenant qu'il y a une grande différence, notamment sur des problèmes de rotation mentale, de capacité de changer de point de vue. Et les femmes ont l'air de préférer le système égocentré, pariéto-frontal de route, en quelque sorte. Les hommes ont l'air de préférer les représentations par carte ou les simulations par la cartographie. Mais évidemment, il y a des recoupements, il y a des filles qui sont plus que les garçons et les garçons plus que les filles, parce que c'est toujours, je prends toujours des précautions quand je parle de ça, parce qu'il faut faire attention à pouvoir sortir de la salle vivant. Donc, il y a des grandes différences interindividuelles dans les stratégies cognitives de ce traitement de l'espace. Et il est certain que l'entraînement des joueurs de rugby implique aussi cet entraînement de cette capacité de gérer en même temps, au fond. De gérer en même temps ses mouvements égocentrés et de garder, un peu comme quand on est en voiture, qu'on a un GPS, où on est à la fois en train de conduire dans la ville et en même temps on a la carte devant soi. J'ai prédit le massacre quand on a commencé à voir apparaître ces choses-là, parce que de passer d'un système à l'autre demande quand même du temps. Ça n'est pas simple, notamment pour les personnes âgées ou d'autres. Et je continue à penser qu'il y a, et je n'hésite pas à le dire, qu'il y a un grand nombre d'accidents de voitures qui se produisent à cause de cette affaire-là. Je suis terrorisé, moi, quand je vois mon chauffeur de taxi, parce que je n'ai pas le GPS, regarder très attentivement, au lieu de regarder la route, son GPS, et que je sais surtout que pour passer de l'un à l'autre, il doit passer d'un système à l'autre. Voilà. Ce qui, en cas de fatigue, d'âge, etc., c'est pas rien, c'est une seconde, ou c'est pas 10 millisecondes. Donc là, au rugby, il faut être, cette agilité mentale de la gestion des référentiels est vraisemblablement quelque chose d'extrêmement important pour pouvoir gérer, c'est à la fois le mouvement proche et cette espèce de vision d'ensemble du mouvement. Voilà. Je crois que je vais m'arrêter là parce qu'il est tard, on a commencé tard. Je termine là-dessus. Une autre chose très importante, sans doute dans le rugby, qui fait que c'est passionnant, c'est qu'il faut aussi gérer le point de vue d'autrui. C'est-à-dire, il faut être à la fois capable de prévoir sa propre trajectoire, mais en même temps prédire la trajectoire de l'autre et la vision qu'il a de l'ensemble d'autrui. Alors là-dessus aussi, nous faisons au labo des expériences maintenant d'imagerie cérébrale en relation avec plusieurs labos européens et dans des contrats européens. Parce que là, c'est très intéressant, parce qu'en même temps, ça a un impact sur l'autisme, des tas de choses de psychologie sociale et de neuropsychologie. Par exemple, je peux vous montrer, voilà, une manip, un exemple de manip. Je vous montre cette lampe dans cette pièce, et puis je vais vous montrer maintenant la même lampe du point de vue de l'avatar. C'est-à-dire que, et vous aurez à dire, là, j'ai pas la diapo ici, vous aurez à dire si à l'image suivante, mais je sais pas, elle a sauté, si le nouveau point de vue est bien celui de l'avatar. Et ça suppose, cette manip, on l'a montée, parce que ça suppose que quand vous regardez ça, si je vous dis, voyez bien où est la lampe là, maintenant je vais vous montrer une autre image qui vous montrera la lampe du point de vue de l'avatar, et vous devrez me dire si c'est bien le point de vue de l'avatar. Alors, cette manip a été montée parce que ça vous oblige d'une certaine façon, alors que vous êtes assis dans la pièce, à vous mettre à la place de l'avatar. À faire ce qu'on doit faire quand on est en rugby et qu'on doit imaginer soi-même, y compris, du point de vue d'autrui. Voilà. Alors on montre que dans des manips comme ça, eh bien on voit activer un certain nombre de structures qui sont spécialisées dans les changements de point de vue. Voilà quelques idées comme ça lancées sur le cerveau et le rugby. Merci.